Voilà, nous nous retrouvons ce matin. Hier, avec le frère Marie-Laurent, nous avons vu que l'oraison était véritablement le chemin et la voie par excellence de notre sanctification, car dans cette oraison, nous recevons l'eau vive, c'est-à-dire la grâce de la contemplation. Et à cette grâce de contemplation, nous y sommes tous appelés, et Dieu veut la donner à tous. J'ai conscience qu'en disant cela dès le début, je lance 1000 questions. Alors, 3 points dans notre rencontre. D'abord, définition. Qu'est-ce que la contemplation ? Deuxième point, nous verrons quels sont les différents degrés de contemplation. Car il y a une intensité plus ou moins forte dans l'expérience de l'Esprit-Saint que nous faisons au cœur de la contemplation. Et un troisième point, nous verrons quel est le statut de la contemplation, si nous essaierons de répondre aux problématiques, aux questions que pose cette contemplation. Pourquoi la donne-t-il sous une certaine forme à certains, sous une autre forme à d'autres? Qu'est-ce qu'il vise? Pourquoi il la donne, etc. Donc tout d'abord, premier point, définition de la contemplation. J'ai pris le dictionnaire et nous y lisons, à propos du mot contemplation, fait de s'absorber dans l'observation de quelque chose ou de quelqu'un. Je suis par exemple au musée du Louvre, me voilà fasciné par le tableau du sacre de Napoléon peint par David. Je ne vois plus le temps passer. Et au bout de 15 minutes, mes amis qui sont venus visiter le musée du Louvre avec moi se rendent compte que je ne suis plus avec eux. Ils font machine arrière, ils reviennent de salle en salle et ils me trouvent là, planté devant le tableau de David. Et puis ils s'approchent de moi, ils me disent « Mais tu viens !» Alors du coup, ça me fait un électrochoc. Je reviens un petit peu à moi-même. Je regarde ma montre et je me rends compte qu'effectivement, ça fait 15 minutes que je suis là, j'ai pas vu le temps passer, je leur dis « excusez-moi, j'arrive tout de suite ». Je quitte mon tableau et je continue ma visite. Eh bien, chez Thérèse d'Avila, le mot « contemplation » n'a pas tout à fait le même sens que celui du mot « Larousse ». La contemplation thérésienne est bien une absorption, effectivement, en Dieu, sauf que dans la contemplation thérésienne, et non pas celle du Larousse, c'est Dieu qui réalise et qui est la cause de l'absorption. Quand je m'absorbe devant le tableau de David, c'est moi qui suis fasciné et puis qui m'absorbe par ce tableau. Dans la contemplation thérésienne, c'est Dieu qui absorbe, c'est lui qui réalise cette absorption. Donc la contemplation chez sainte Thérèse d'Avila, c'est une emprise de l'Esprit Saint sur notre propre esprit. De telle sorte que ce n'est plus nous qui faisons l'effort de nous recueillir, c'est Dieu qui prend les rênes de la prière, il prête main forte, il fait à notre place, c'est l'Esprit-Saint qui recueille l'âme. C'est l'Esprit-Saint qui prie en nous, ce n'est plus nous qui prions, c'est l'Esprit-Saint qui prie en nous. Alors bien sûr, comme dans la méditation, le Christ est regardé avec notre faculté d'intelligence, avec notre faculté d'entendement par la foi. Le Christ est aimé par notre faculté de volonté dans la charité. Et pour cette raison, la méditation a exactement le même objet que la contemplation, qui est le Christ en son humanité, qui est Dieu, qui est la Sainte Trinité. Cependant, dans la contemplation, nous recevons un secours tout particulier de l'Esprit-Saint qui regarde le Christ par la foi, qu'il active lui-même d'une manière particulière, avec une force majeure. C'est l'Esprit Saint qui va aimer de charité d'une manière principale, majeure en nous. Autrement dit, la méditation et la contemplation ont le même objet, mais elles ne fonctionnent pas, la méditation et la contemplation, sous le même mode. Dieu, dans la contemplation, n'est plus approché par nos seules forces naturelles, en activant par nos seules ressources ses facultés d'entendement et de volonté, c'est-à-dire laborieusement. Dieu est approché dans la contemplation maintenant surnaturellement, par cette action de l'Esprit Saint qui, en quelque sorte, et c'est bien cela qui se produit, prend le relais de notre faiblesse, de notre impuissance, et c'est pour ça que la prière, l'oraison, va devenir facile, non plus laborieuse, mais facile. Nous pouvons prendre une image pour bien comprendre cette différence entre la méditation et la contemplation. Imaginons que je suis sur les quais du Vieux-Port, à Marseille, et que se présente le capitaine Escartefigue. Et le capitaine Escartefigue, c'est l'Esprit Saint. Pardon, Esprit Saint, pour cette image un peu triviale. L'Esprit Saint, qui, le capitaine, m'invite à monter à bord de mon âme, c'est-à-dire à rentrer au-dedans de moi-même, à monter, si vous voulez, à bord de mon cœur. Et dans ce petit bateau qui est mon âme, qui est mon cœur, où l'Esprit Saint m'invite, et ça c'est rentré dans l'oraison, et dans cette petite barque, il y a deux coffres forts, fermés avec des combinaisons secrètes, dont seul le capitaine a la combinaison. Et une fois que je suis monté à bord, il ouvre un coffre, et il sort de ce coffre des rames et une boussole. Et l'Esprit Saint me donne les rames et la boussole. La boussole, c'est l'entendement. Ce par quoi je me dirige et je mets le cap. Les rames, c'est la volonté. Et l'Esprit Saint, qui m'a invité à monter à bord, il me dit, maintenant, on met le cap sur le Christ. C'est-à-dire sur Ajaccio. Et donc, vas-y mon vieux, on démarre. Et on rame, et on rame, et on rame dans cet oraison. Et c'est vrai qu'au bout d'une heure, on en a plein les bras, et on a envie vraiment de tout arrêter, de tout abandonner. Et voilà que la petite barque commence à dériver. Et l'Esprit Saint, il nous dit, alors qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Rame. Alors, sous l'exhortation de l'Esprit Saint et de Scartofigue, on reprend nos rames, et on rame. Au bout de deux jours, on est arrivé au château d'If. Hein? C'est-à-dire qu'on a fait, deux petits kilomètres. Alors, nous voyant épuisés, fatigués, mais quand même touchés par les efforts que nous faisons avec notre entendement et notre volonté, l'Esprit Saint, timidement, gentiment, nous propose de prendre le relais. Mais Dieu, est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je fasse à ta place? Alors, ben nous, évidemment, on dit oui. Enfin, espérons qu'on n'est pas attaché à nos seules forces naturelles pour dire non, je vais y arriver. Enfin, il y en a qui sont comme ça, hein, qui veulent pas laisser l'Esprit Saint prendre le relais parce qu'ils s'imaginent que non, la prière, c'est leur affaire, ils vont faire tout seuls. Voilà. Donc, en général, on dit oui quand on est arrivé vraiment à un bon degré de fatigue. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint, il prend les rames, il prend la boussole, il les enferme littéralement dans le coffre. Il ouvre le deuxième coffre. Il en sort des voiles. Il hisse les voiles. Il prend le gouvernail. Il souffle dans les voiles, parce que l'Esprit Saint, il le souffle. Et à ce moment-là, on passe d'une vitesse vraiment à la rame, à une vitesse de croisière, à 24 nœuds, et puis on va arriver vite à Ajaccio en l'espace d'une nuit. Mais ça prendra quand même un certain temps. C'est ça. La méditation, c'est monter dans notre cœur, avec toutes ces puissances que l'Esprit Saint nous donne, hein, et qui viennent de lui, et on y va, on prie, voilà, avec nos forces naturelles. Et la contemplation, c'est l'Esprit Saint qui prend le relais, qui va lui-même conduire la prière, conduire l'horizon, et prendre le relais de notre humanité pour nous amener jusqu'à l'union, jusqu'au Christ. Celui qui a déjà reçu une grâce contemplative dans sa vie le sait. Celui qui a reçu une grâce contemplative sait indubitablement pourquoi ? Parce que ce matin-là, ce soir-là, dans son oraison, il a atteint un degré de recueillement, de silence intérieur, comme jamais. Son oraison, de surcroît, a été extrêmement facile et le temps a passé très vite. Et aussi, lorsqu'il a essayé de se recueillir de la même façon, à nouveau, dans l'oraison suivante, parce qu'il pense que, ça y est, maintenant, il a compris le truc, il sait faire, il se met en attitude de recueillement, il ferme les yeux, et puis ça ne marche pas. Eh oui. Voilà, si vous voulez, les grands critères qu'on a vécu, une expérience contemplative, que l'Esprit-Saint a pris le relais de nos facultés. Donc cette profondeur de recueillement, cette facilité et cette impossibilité de reproduire ce qui a été vécu. Deuxième point, les degrés de la contemplation. Car dans cette prise en main de l'âme, dans ce relais que l'Esprit Saint assure, il y a des degrés. Il y a des intensités différentes. Premier degré d'emprise de l'Esprit Saint, il se fait sur la faculté de volonté, c'est-à-dire sur les puissances d'amour, seulement. Ce premier degré d'oraison contemplative s'appelle la quiétude. Qu'est-ce qui se produit dans l'oraison de quiétude ? Eh bien, parce que l'Esprit Saint prend le relais de la volonté des puissances d'amour, il se produit magiquement, passivement, miraculeusement, une aimantation en Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un aimant ? Vous posez un gros aimant au centre de l'autel, vous lâchez un petit peu de limaille de fer à l'extrémité de l'autel, elle va se coller immédiatement sur l'aimant. C'est ce qui se produit dans l'oraison de quiétude. L'âme ne sait pas comment cela se fait, nous ne comprenons pas comment cela peut se produire, mais nous voilà engloutis littéralement au fond de nous-mêmes. Irrésistiblement attirés en notre centre, là où Dieu habite. Nous sommes là, par l'Esprit Saint, inclinés vers l'Époux qui se tient là avec nous dans le secret. C'est que Dieu a versé dans la faculté de volonté une onction délicieuse, suave, par laquelle nous sommes énamourés de Dieu, collés contre lui, mis contre lui. Et j'insiste bien, attention, ce n'est pas nous qui faisons cela. C'est l'Esprit qui le fait en nous. Nous sommes sous un mode d'oraison qui n'est plus humain, mais sous un mode d'oraison qui est divin. Ce qui se produit là est proprement surnaturel. Alors vous voilà dans le repos, dans une grande sérénité, dans une grande paix intérieure qui s'étend comme l'encre sur un buvard, sur toute l'âme, sur tout le fond de l'âme. Vous êtes totalement pacifié, rasséréné. C'est la quiétude. C'est la quiétude. Et on ne veut plus bouger. On est trop bien. Comme un enfant dans les bras de sa mère, immobile dans notre corps et dans notre âme. On touche là une paix que le monde ne pourra jamais nous donner. Même la plus grande des paix, la paix d'une maman qui vient de recevoir son nouveau-né sur son sein après les douleurs de l'enfantement, c'est quand même pas mal, toute reposée, vous voyez, toute relaxée après ces douleurs de l'enfantement et jouissant de la présence de son fils chéri auquel elle vient de donner la vie et le jour. Mais quelle paix pour une maman! Eh bien cela, ce n'est rien à côté de la quiétude, à côté de la paix surnaturelle que l'Esprit-Saint donne à l'âme quand il fond ainsi sur elle et qu'il la pénètre de cet amour au cœur de ses facultés de puissance, de volonté. Je lis une description de l'oraison de quiétude chez Sainte Thérèse d'Avila. Dieu et l'âme sont alors si près l'un de l'autre qu'ils peuvent s'entendre par signes. L'âme se trouve à l'intérieur du palais, tout près du roi, et elle voit qu'il commence à lui donner son royaume. Elle se croit hors du monde. Rien ne l'afflige. Durant ce temps, la jouissance et la douceur intérieure que l'on goûte enivrent et absorbent de telle sorte qu'on ne voit plus rien à souhaiter, et de grand cœur, on dirait avec saint Pierre, « Seigneur, faisons ici trois tentes. » Voilà, l'expérience contemplative indicible, qui est bien plus que la quiétude au moment de la transfiguration, qui explique qu'effectivement Pierre, abîmé en Dieu comme ça avec les deux autres, voudrait que ça dure éternellement et puis qu'il en ait fini avec les affaires de la terre. Hein. Dressons ici trois tentes dans ce royaume que tu nous donnes à partager. Je précise ici une chose. Attention, dans l'oraison de quiétude, l'emprise de l'Esprit-Saint ne s'exerce que sur la faculté de volonté. Aucune emprise ne s'exerce sur l'entendement. Si vous avez paradoxalement cet engloutissement, cette paix, ce repos, et en même temps, les distractions qui continuent, les divagations de l'entendement qui continuent de folâtrer sur mille objets qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Thérèse d'Avila, qui a reçu les premières grâces d'oraison de quiétude, s'interroge de ça. Elle dit, mais comment se fait-il qu'on puisse être à la fois ainsi reposé, paisible, absorbé comme cela au centre de nous-mêmes, et en même temps être distrait et penser à mille choses? Ben oui, justement, et c'est comme ça qu'elle découvre d'ailleurs que nous ne sommes pas un bloc monolithique, et que nous avons des facultés qui sont bien distinctes. Une chose est la faculté de la volonté, autre chose est la faculté de l'entendement. Comme c'est consolant pour nous de savoir que dès lors que nous avons fait le choix d'amour par la volonté de prier et d'être présent pour Dieu, c'est gagné. Même si j'ai mille distractions, même si la folle du logique et l'entendement et l'intelligence m'empêchent de me concentrer en la présence de Dieu, du moment que je fais ce qu'il faut pour revenir en présence de Dieu quand je me rends compte que je me suis évadé, du moment que je suis déterminé dans la recherche et la quête de Dieu dans mon horizon, c'est gagné. Même si je passe 30 minutes de distraction et 5 minutes de concentration sur la présence du Christ dans ce temps d'oraison que j'ai décidé à donner au Seigneur. Thérèse va nous donner trois conseils quand nous recevons cette grâce contemplative de la quiétude. Premier conseil, pratico-pratique. Elle dit qu'il ne faut surtout pas essayer de ramener l'entendement en présence de Dieu. Il faut jouir passivement de cette paix, de ce grand repos intérieur, de cet engloutissement. Il faut en jouir pleinement et laisser les distractions. Laisser les distractions. Pourquoi ? Parce que si j'essaye de me concentrer en la présence de Dieu et de ramener l'entendement, qu'est-ce qui se passe ? Je reprends les rênes. Je reprends le contrôle de la prière. Je redeviens l'acteur principal de mon oraison. Et donc du coup, comme le bon Dieu il voit que je préfère les rames à la voile, eh bien il me laisse fonctionner avec les rames. Et du coup, je perds le vent dans les voiles, je perds les voiles, et je reviens à ma méditation. J'ai perdu l'onction, j'ai perdu le don de la contemplation, de la quiétude. Donc, premier conseil, surtout quand on est dans la quiétude, le repos abyssal et la paix divine, ne pas vouloir maîtriser les distractions. Laisse courir le renard dans la vigne. Mais si je ne suis pas dans la grâce de quiétude, si je ne suis pas dans cette action passive de l'Esprit-Saint qui m'abîme dans le recueillement de cette aimantation, je dois ramener mon esprit toujours en présence de Dieu quand je prends conscience que je suis distrait. Sinon, en jouant le cirque de la contemplation et d'une pseudo-quiétude, en étant là dans une espèce, voyez, de ouate artificielle, ben en fait, je suis là, la bouche ouverte, à rêvasser. Donc, quand je ne suis pas dans la grâce de quiétude, je dois ramener mon esprit en présence de Dieu chaque fois que je me rends compte de mes distractions. Mais si je suis dans la quiétude, je dois laisser courir le renard. Je ne dois pas essayer de maîtriser l'entendement. Ensuite, deuxième conseil. Amortir les activités de la vie quotidienne, rechercher la solitude. Lorsque le Seigneur, à l'oraison, nous fait la grâce de ce repos, de ce calme qu'il met en nous, il faut éviter d'aller passer la journée à Euro Disney. Parce qu'en faire des manèges, vous voyez. Il faut éviter de trop regarder la télévision, mesdames. Ah, oh, oh. Soyez humble un peu. Je ne peux pas toujours vous faire des compliments, surtout qu'on m'a reproché d'être démagogique. Voilà, donc mesdames, la télévision, ça ne peut pas aller avec l'oraison de quiétude. Si le Seigneur vous fait des grâces de quiétude, le matin, vous devez fermer la télévision toute la journée. Pourquoi ? Pour manifester à l'Esprit-Saint que vous avez compris son signal, que vous avez vu qu'il voulait prendre le relais de vos facultés, et donc vous allez le laisser faire, et vous allez calmer le jeu au-dedans de vous-même pour ne pas reprendre le contrôle, hein, et pour ne pas vous agiter. Comment peut-on être contemplatif ? Comment peut-on être une âme dite d'oraison et nous agiter à 100 000 km à l'heure avec des degrés différents selon les tempéraments, des actifs, des non-actifs, quand il y a de la place pour les actifs au Carmel, Dieu merci. Hein. Mais il faut essayer d'y aller mollo. Voilà. Hein. Et je mets aussi là-dedans les bavardages, l'omniprésence sur le téléphone portable, les SMS intempestifs, 1000 occupations qui nous projettent de ci, de là. Vous voyez, nous avons, nous, au couvent, des mamans, des mères de famille qui, une fois par mois, viennent passer une journée de solitude au couvent, loin des maris, loin des enfants, loin des téléphones. Elles mangent en silence le midi, elles ont un enseignement le matin, un enseignement le soir. Elles prennent, si vous voulez, une journée de désert. Voilà, c'est là le conseil que Thérèse d'Avila nous donne, le deuxième conseil. La solitude, le désert, se retrouver seul avec l'hôte intérieur. Et essayer de mettre un peu le monde dehors. Mettre le monde dehors, hein, l'internet, la télévision et tout le reste. Troisième conseil, restez humble, petit, c'est le conseil le plus important, qui est déterminant quand Dieu nous donne la grâce de l'oraison contemplative de quiétude. Pourquoi ? Parce que Dieu donne la contemplation à qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour des raisons que lui seul connaît et qui n'ont absolument rien à voir avec nos mérites. Donc si j'ai la quiétude, il ne faut pas que je commence à me dire là c'est parce que j'ai fait des bonnes actions depuis 3 mois et je me suis éreinté dans la 16 et maintenant ça paye. Et donc je reçois enfin le salaire de mon travail, hein, que j'ai fait sur moi-même. Absolument pas, absolument pas. La grâce contemplative n'a rien à voir avec nos mérites. Donc quand je la reçois, il faut se dire, mon Dieu, pourquoi moi ? Franchement, je ne l'ai pas mérité. Et puisque tu veux me la donner, Seigneur, ben donne-la-moi. Mais en tout cas, tu sais combien je me sais indigne de la recevoir. Et vous voyant dans ces dispositions humbles, il continuera de vous la donner. Si par contre, il voit que vous essayez de récupérer les dons et de vous les approprier par je ne sais quel mérite, hein, vous allez la perdre, cette oraison de quiétude. Donc, il faut être humble, tout petit. Deuxième degré d'oraison. L'oraison dite d'union. Ah, là, l'emprise de l'Esprit-Saint est plus forte, plus totale. Maintenant, l'Esprit-Saint prend possession de l'entendement. Que se passe-t-il ? Je ne pense plus, et je ne pense plus que je ne pense plus. Parce que l'Esprit-Saint ayant pris possession de l'entendement, il l'a arrêté. Vous êtes éteint. Comme un interrupteur. Ouais, la lumière brille, j'éteins. La prise de possession de l'entendement fait qu'évidemment, il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de divagation, puisque l'Esprit-Saint prend possession de l'entendement, il l'arrête. Oui, mais quand l'Esprit-Saint arrête l'entendement, je ne pense plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus capable d'une connaissance réflexive de moi-même. Et donc, je suis comme dans une perte de connaissance, une perte de conscience de moi-même. Vous êtes, dit-on, perdu en Dieu. Sainte Thérèse d'Avila dit que Dieu suspend l'entendement. C'est la grâce d'oraison d'union. Qui a reçu la grâce d'oraison d'union déjà ? Levez la main. C'est assez rare. C'est assez rare. Ça dure, dit Sainte Thérèse d'Avila, le temps d'un ave. J'ai calculé, vitesse française, 30 secondes. Vitesse italienne, 10 secondes. Donc je pense que notre mère Sainte Thérèse est plutôt dans les 30 secondes que dans les 10. C'est pour cela que Thérèse d'Avila parle d'oraison d'union. Vous voyez, parce que Dieu s'unit toutes les puissances. Il les a toutes dans sa main, l'amour et l'entendement. Il y a encore d'autres degrés, il y a encore d'autres expériences contemplatives supérieures à l'oraison d'union, mais on n'a pas le temps ici d'en faire la narration. Je vous renvoie au 6e demeure où vous en aurez toute la description détaillée. Avec, je les énonce quand même, la blessure d'amour, la grâce contemplative de la blessure d'amour. Les paroles intérieures, les visions en images, les visions intellectuelles, la transverbération ou martyr d'amour, les ravissements ou les extases. Qu'est-ce que c'est que l'extase ? Ben, reprenons l'image du tableau de David. Vous êtes mis devant le Christ par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint met en vous une telle puissance d'amour pour le Christ. Un tel degré de foi porté à regarder le Christ que votre âme, elle s'envole et elle laisse le corps en carafe. Il se produit quasiment une déconnexion de l'âme et du corps. Je connais une mère prieure, dont je tairai le nom par discrétion, qui a une de ses sœurs qui a l'habitude de partir en extase. Au bout de la 10e extase, elle s'est demandé si c'était du lard ou du cochon. Parce qu'effectivement, dans la vie mystique, on rencontre beaucoup de gens qui sont un peu brages, un peu braques, qui se figurent des tas de choses avec l'illusion et qui en fait singent les grâces contemplatives. Donc le meilleur moyen pour le vérifier, c'est ce qu'a fait notre mère prieure. Elle a discrètement, une fois qu'elle était derrière la sœur, immobilisé les yeux grands ouverts dans son extase, elle a délicatement sorti une épingle de son voile, elle l'a plantée dans le flanc de la sœur, je peux vous dire que si vous n'avez pas la grâce de l'extase, surtout quand vous ne le savez même pas, si on vous dit attention, on va vous planter une aiguille, faites semblant de ne rien sentir. Mais si on vous dit même pas qu'on va vous planter une aiguille, vous êtes foutu. Évidemment, la sœur était dans une authentique extase. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Le lendemain, elle va trouver sa mère prieure et dit « Ma mère, je comprends pas, j'ai un point douloureux dans le côté. » C'est une histoire vraie, hein, je blague pas. Et les extases, ça existe encore aujourd'hui. Hein, c'est pas réservé à Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle. Hein. Bon, tout ça pose d'énormes questions. Troisième point, statut de l'oraison contemplative. Je voudrais essayer de clarifier un peu les choses avec vous. Il faut d'abord distinguer deux formes d'oraison contemplative. Je le répète, la grâce contemplative, c'est une emprise de l'Esprit-Saint sur notre propre esprit. C'est essentiellement une motion surnaturelle par laquelle Dieu assure lui-même à notre place le mouvement des facultés de connaissance et d'amour. Eh bien, ce phénomène-là, de prise en charge et de relais, de possession des facultés, peut être vécu de deux façons différentes. Soit positivement, soit négativement. Positivement, eh bien, j'expérimente ce que l'Esprit-Saint réalise, c'est-à-dire une nouvelle façon d'aimer en moi, dans la grâce contemplative de la quiétude, ou de la blessure d'amour, ou de la transverbération. Je réalise ce que l'Esprit-Saint fait en moi d'une manière toute nouvelle dans ma faculté de connaissance, à travers les grâces contemplatives, de suspension de l'entendement, de ravissement, de vision en images intellectuelles, de paroles intérieures. Auquel cas, ici, on parle de contemplation fruitive, qui a le mot « fruit », c'est-à-dire le jus. Hein, quand vous pressez une mangue et que vous en buvez le nectar, vous êtes tapissé par le goût de la mangue, vous voyez, vous devenez mangue. Vous voyez, tellement ce parfum de la mangue est délicat, suave, et que vous le goûtez. Alors voilà, la contemplation fruitive, c'est faire cette expérience de l'Esprit-Saint, vous voyez, dans nos facultés de connaissance et d'amour, qui nous fait faire une véritable expérience jouissive, si vous me permettez l'expression, de Dieu et de l'Esprit-Saint. Oui, mais rappelez-vous ce que j'ai dit. La contemplation, c'est une emprise de l'Esprit-Saint qui prend le relais. C'est-à-dire que, vous rappelez, il a mis les rames dans le coffre. Il a mis les boussoles dans le coffre. Ça veut dire que je ne peux plus m'en servir. Ah ! Donc je peux aussi expérimenter la grâce contemplative d'une manière négative. C'est-à-dire que Dieu ne permet pas que nous puissions voir ce qu'il réalise en nous dans nos facultés de connaissance et d'amour. Il ne nous laisse qu'avec l'impossibilité de les utiliser et de les exercer nous-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes là dans ce que l'on appelle la sécheresse contemplative. C'est-à-dire que je ne perçois en moi, dans cette action passive de l'Esprit-Saint, que la dimension de neutralisation de moi-même. Et c'est douloureux. Et c'est difficile. Parce que j'arrive plus à méditer, j'arrive plus à exercer mon entendement dans les choses de Dieu, je ne ressens plus rien dans mon affectivité sensible, d'émotions, de sentiments amoureux pour Jésus, je suis froid comme la vitre, je suis froid comme le marbre, voyez. Et donc, tout ce qu'il y a de positivité que l'Esprit-Saint réalise en moi, je ne le vois pas, je ne le perçois pas, je ne vois que cette dimension, voyez, de neutralisation de mes facultés. C'est ce qu'on appelle la sécheresse contemplative. Si je reprends l'image du bateau, considérons que nous sommes dans le bateau, que l'Esprit-Saint a sorti les voiles, il souffle dedans, mais il fait que nous ne voyons pas les voiles et nous ne le voyons pas souffler dedans non plus. On ne voit que le bateau sur la mer, on n'en perçoit absolument pas la vitesse, parce que sans voile, votre bateau qui avance, vous ne le voyez pas tracer sa route. Et vos rames, en plus de ça, sont enfermées dans le coffre. Donc c'est très difficile, parce que vous avez l'impression d'être perdu. Vous avez l'impression aussi d'être complètement abandonné. Et vous ne pouvez même plus utiliser vos ressources personnelles pour faire quelque effort que ce soit afin de vous rapprocher de Dieu par la connaissance et l'amour. C'est pas cool. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous sommes dans l'expérience contemplative, mais ressentie positivement avec la contemplation fruitive ou négativement avec la sécheresse contemplative. Qu'est-ce que vous préférez ? La contemplative sèche ou la contemplative fruitive ? Ah ! Faut voir. Faut voir. Ça mérite discernement. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, tout d'abord, ce qui est important de bien poser, c'est que ce qui compte dans notre vie spirituelle, c'est la grâce contemplative. Et non pas la forme qu'elle prend. Ce qui compte, c'est que l'Esprit Saint nous prenne à charge et qu'il agisse en nous, à notre place, à travers nous. C'est ça qui compte. Mais après, la manière dont il va le faire, soit la prise de conscience de notre impuissance, parce que c'est lui qui fait à notre place, ou dans la prise de conscience de ce qu'il fait, lui, à notre place, parce qu'on le voit, on le réalise dans la fruition. Tout ça, en fait, c'est pas ça, en fait, le problème. Le problème n'est pas la forme de contemplation, fruitive ou sèche. Le problème, c'est d'avoir la grâce contemplative. Et cela, l'Esprit Saint la donne à tous. À tous. Au bout de, généralement, 6 mois, à ramer dans l'oraison. Parce qu'il y a ramer et ramer. Il y a ramer dans la méditation ou ramer sans les rames, si vous me comprenez, dans la grâce de la sécheresse contemplative. Alors, je vous renvoie à vos pères spirituels avec la boîte à outils de Saint-Jean de la Croix pour faire le discernement, pour savoir si vous êtes dans la sécheresse contemplative ou dans la sécheresse de tiédeur spirituelle. On n'a pas le temps ici. En tout cas, ce qui compte, c'est la grâce contemplative et non pas la forme d'oraison que nous recevons. Parce que ce qui est important, c'est ce que produit la grâce contemplative. Or, ce qu'elle produit, c'est une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de connaître. Nouvelle façon d'aimer. La charité prend en nous une dimension qui confine à l'héroïsme. Quand vous êtes rentré dans la contemplation, que ce soit fruitive ou sèche, la charité, c'est ça, 24 nœuds. Donc vous allez aimer d'une manière qui est à crever le plafond. Non plus chichement, timidement, mais à la manière des saints. C'est-à-dire en étant capable de poser des actes d'amour qui confinent à l'amour de Jésus crucifié. Quand on me fait mal, mon cœur reste ouvert. Je me donne. Quand on m'offense, je pardonne. Je ne replie pas sur moi-même. Je ne garde plus la dette que l'autre me doit. Je lâche tout. Je me donne à corps perdu, gratuitement, pour la joie de me donner, parce que je suis devenu comme Dieu, par l'action passive de l'Esprit Saint. Vous voyez, la charité qui prend vraiment une dimension totalement nouvelle. On ne recule maintenant devant aucun sacrifice pour l'amour de Dieu et du prochain. On est traversé d'une générosité sans borne, infatigable. On accepte tout, on dit oui à tout, dans la docilité à Dieu, confiant dans sa divine providence. On pardonne tout, on s'oublie entièrement, on est passé du moi à l'autre et on offre notre vie en pur gaspillage pour le salut du monde. Vous voyez, c'est, ça décoiffe. Quand vous avez reçu la grâce contemplative, vous passez à un mode d'exercice de la charité qui fait la différence avec le commun des mortels. Et on voit bien que dans les attitudes et les comportements de cette personne, il y a quelque chose de pas humain. Il y a quelque chose qui transcende complètement les capacités d'amour de ce bas monde. Mais c'est aussi une nouvelle façon de connaître, quand nous avons reçu la grâce contemplative, quelle qu'en soit la forme, nouvelle façon de connaître dans la foi et dans l'espérance. À partir de la grâce contemplative, nous commençons à voir le monde avec les yeux de Jésus. Nous percevons avec beaucoup plus d'acuité et de certitude tous les mystères de la foi. Maintenant, quand nous disons « Je crois en l'Église une sainte », Nous y croyons. Alors que jusqu'à présent, on se disait, ouais, bon, l'Église sainte, je veux bien, mais enfin, vu ce que font certains prêtres, vu ce que font certains religieux, religieuses, l'Église sainte, je veux bien, mais bon, quand même. Hein. On comprend que le mystère de la sainteté de l'Église vient de la présence du Christ au cœur des croyants, et que si elle est membre pécheur, il reste que le Christ est présent au milieu de ses pécheurs, et c'est lui qui fait, malgré tout, la sainteté du collège des apôtres. Le collège des apôtres est saint parce que Jésus est là au milieu d'eux, en dépit des péchés des apôtres. Et l'Église, c'est ça. Et on la reçoit une grâce de l'Esprit Saint toute particulière qui va nous ouvrir au mystère de l'Église, épouse du Christ. Je vous renvoie au Père Palao, qui est un spécialiste de cela. Et ainsi pour tous les articles de la foi. On comprend aussi, par cette action passive de l'Esprit Saint, avec une certitude inébranlable, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Et que quand même on serait pris dans la tempête, l'eau submergeant la barque de ces vagues, on ne coulera pas. On ne coulera pas. Ça, c'est la grâce contemplative qui vous permet de croire que tout est foutu, tout est perdu, mais la France renaîtra de ses cendres. Voilà. Je vois que vous y croyez, voilà, je vois que vous y croyez, et ça vous ne pouvez pas y croire, compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui, sans être dans la vie contemplative. Voilà. Et aussi, quand on est, si vous voulez, dans cette oboration de l'Esprit-Saint qui fait les choses en nous, et qui prend le relais de la foi et de l'espérance, qui agit la foi et l'espérance à notre place, il y a aussi un critère de discernement, c'est que nous donnons des conseils à nos frères et à nos sœurs qui sont prophétiques et qui les amènent à nous dire parfois « Mais tu sais, le jour où tu m'as dit ça, tu ne peux pas t'imaginer l'effet que ça m'a fait, j'ai tout compris et vraiment, enfin, je te remercie. » Et nous, on ne comprend pas parce que le jour où on dit ça, on pensait complètement à autre chose. Oui, mais ce n'est pas nous qui le disions, c'était l'Esprit qui le disait en nous, et la preuve que c'était l'Esprit qui le disait en nous, c'est que ça avait une performance qui a eu la capacité de transformer l'âme de la personne qui nous a demandé ce conseil. En conclusion de ce point, il faut dire que nous sommes tous appelés à la vie contemplative, à passer sous le régime entier plénier de l'Esprit Saint, de sa motion. Nous sommes tous universellement, c'est-à-dire sans exception, appelés à l'union d'amour avec Dieu, au mariage spirituel, à la sainteté. Mais on n'est pas tous appelés à la même forme d'oraison, soit fruitive, soit sèche. Alors, conclusion, pourquoi Dieu veut-il pour moi l'oraison de contemplation fruitive? Et pourquoi a-t-il choisi pour moi l'oraison de contemplation sèche? Je réponds à cette question. Vous me donnez 5 minutes. Pourquoi Dieu veut-il, en ce qui me concerne, des grâces de contemplation fruitive? Souvent la quiétude, des fois l'union, des fois le ravissement, des paroles intérieures. Pourquoi moi, je vis tout ça dans l'oraison et les autres, non? Alors, 4 réponses, mais ce n'est pas exhaustif. Il y a des raisons que Dieu seul connaît, qui sont extrêmement mystérieuses, mais notre Mère Sainte Thérèse nous en donne 4. Première raison, il nous donne la fruition contemplative pour appâter le client. Ben oui, pour aller à la pêche et sortir la rascasse, et il faut mettre le petit asticot là, hein, les esques, comme on appelle à Marseille. Il faut mettre l'esque au bout de l'hameçon. Si vous ne mettez pas l'esque au bout de l'hameçon, la rascasse, elle ne va pas mordre. Eh bien, l'Esprit Saint, il sait que pour faire mordre l'âme, il faut qu'il mette les esques de la grâce contemplative fruitive. Et si vous goûtez cette expérience de Dieu, effectivement, ça va vous attirer vers le Seigneur. Vous allez commencer à être les amis du Seigneur, à le fréquenter, hein, à avoir la détestation du péché, à vouloir vous convertir, etc. Voilà, parce que Dieu, je l'ai rencontré, et ça m'intéresse maintenant, désormais. C'est un premier but de la grâce contemplative fruitive, c'est cela. Hein, c'est vraiment d'attirer l'âme. Deuxième raison, pour manifester sa miséricorde. Parce que comme je vous l'ai dit, l'âme ne mérite pas la grâce contemplative. Aussi, quand Dieu la donne, elle est confondue. Elle voudrait aller se cacher sous le tapis. Parce que ça l'humilie profondément. Mon Dieu, vous me donnez ça, je me rends compte que je ne le mérite pas. Oh, Seigneur, que faites-vous ? Alors que je mérite l'enfer, et vous me donnez le ciel ? Pitié, Seigneur. La grâce contemplative, la vraie grâce contemplative, elle humilie l'âme. Elle ne l'enorgueillit pas. Ce qui enorgueillit l'âme, c'est les singeries du démon dans l'oraison, qui imitent les grâces de Dieu. Mais la vraie grâce contemplative, elle humilie l'âme. Donc c'est le deuxième but de la contemplation fruitive, c'est d'humilier l'âme par ses saveurs et par ses délices qu'elle sait ne pas mériter. Et qui met à jour, qui met à nu hein, ce fait de démériter de Dieu. Troisième raison, pour donner les forces. En vue d'une mission au cœur de l'Église qui va être difficile, et c'est vrai que ce n'était pas un luxe pour affronter la passion, que Pierre, Jacques et Jean reçoivent la grâce contemplative de la transfiguration. Thérèse d'Avila dit, le Seigneur envoie ses soldats au front en les enivrant. Parce que c'est vrai, quand on a bu un bon petit coup, ça dégrise, ça fait sauter le surmoi, et puis ça donne beaucoup d'audace. Ça donne beaucoup d'audace. C'est vrai que pour partir au combat, après avoir eu un bon litron, vas-y, mon Dieu ! Alors que si on n'a pas bu son litron, on est paralysé par la peur. Voilà, donc c'est vrai qu'un bon petit coup de gnôle, ça permet de désinhiber la personne. Voilà, mais il faut y aller doucement quand même. Hein. Donc la grâce contemplative, c'est un coup de gnôle pour désinhiber la personne et lui permettre d'affronter les épreuves, les croix, les difficultés, les souffrances liées à la mission qui est la sienne. Et quatrième raison, c'est la dernière, c'est celle qu'évoquait Marie-Laurent hier. La grâce de contemplation fruitive, elle est donnée pour visibiliser l'action de l'Esprit Saint dans l'âme. Et nous avons besoin de voir autour de nous des personnes qui reçoivent la grâce du ravissement. Des personnes qui sont capables de rester comme ça, immobiles, sans bouger, pendant 3 heures. Dominique Savio, il a reçu l'Eucharistie, il est à genoux sur son prie-Dieu, il est englouti en Dieu, dans la grâce de quiétude très profonde. Tout le monde sort de l'église, Dominique reste englouti en Dieu, il n'est pas là au petit déjeuner, il n'est pas là à la récréation, il n'est pas là à l'école, il n'est pas là au repas de midi. On commence à s'inquiéter, mais où est passé Dominique? On va chercher Don Bosco, on a perdu Dominique. On le retrouve dans l'église, à genoux, au même endroit. Ça fait 4 heures qu'il est là, sans bouger. C'est surnaturel. C'est la grâce de contemplation. Oui, mais ça édifiait les enfants à l'époque. Ça édifiait les enfants. Et le témoignage de l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Dominique Savio et ses grâces contemplatives qu'il a eues pour ses camarades, ça les a boostés hein, dans leur vie de foi et dans leur sequela Christi. On a besoin d'être boostés. Et c'est pour ça que le Seigneur donne des grâces de fruition contemplative, en fait, pas seulement pour nous, mais pour l'Église aussi. Pour l'Église, pour l'édification de l'Église, la fortification de la foi. Hein, c'est Sainte Bernadette Soubirou, elle est là, et son cierge, devant la Sainte Vierge, les yeux écarquillés, elle est partie en extase, déconnectée de son corps, la flamme est en train de toucher sa peau, elle ne bronche pas, elle ne bouge pas. Les gens, ils sont là, mon Dieu, il y a la flamme qui est en train de la brûler, et elle ne bouge pas. Ben, ça édifie le peuple chrétien. On comprend que, il y a quelque chose qui se passe là. Hein, il y a quelque chose qui est du ciel, quelque chose qui est du ciel. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu nous donne la grâce de contemplation. Voyons maintenant les 3 raisons, et j'ai terminé, pour lesquelles Dieu a choisi pour nous plutôt la sécheresse contemplative, c'est-à-dire 99,9% des personnes qui sont ici. Bon, sans préjuger de vos oraisons, hein, pardonnez-moi, sans préjuger de vos oraisons, mais souvent c'est la sécheresse contemplative. Pourquoi ? 3 raisons. Première raison, parce que nous sommes trop gourmands. Nous sommes trop égocentrés, trop sensuels. Et donc, dès que le bon Dieu il nous donne des fruitions contemplatives, la quiétude, la suspension de l'entendement, miam miam, j'en veux et j'en redemande, et je me resserre, voyez, jusqu'à un moment donné, éclaté, voyez, parce que je suis devenu obèse de la grâce de Dieu. Alors, le bon Dieu, il ne va pas nous rendre obèses, il veut que nous restions dans la tempérance, c'est-à-dire que nous allions à lui, non pas pour ce qu'il met sur la table, mais pour ce qu'il est, lui. Que nous allions à prier pour Dieu, et non pas pour ses dons. Quand je me marie pour le fiancé ou pour la bague du fiancé ? Ah oui, si je me marie pour la bague du fiancé, ça pose des problèmes. Ah oui, mais c'est le problème justement de l'oraison, de la fruition contemplative. C'est qu'à un moment donné, je me mets à courir derrière le Seigneur pour ce qu'il met dans l'assiette, pour les douceurs, les saveurs qu'il répand dans cette vie d'oraison. Et à un moment donné, c'est plus lui que je cherche, c'est moi que je recherche, sous prétexte des grâces contemplatives. Alors qu'est-ce que fait le bon Dieu ? Bon éducateur, il ferme les robinets. Il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de jouissance, voilà, il n'y a plus le vent dans les voiles ressenti. Il n'y a plus le vent dans les voiles ressenti. Il y a toujours le vent dans les voiles, mais plus ressenti. Je ne vois plus que mon impuissance, la neutralisation. Rame et boussole dans le coffre. Deuxième raison, dans la sécheresse et l'aridité, par sa grâce, le Seigneur veut nous faire mériter. Par sa grâce, il veut nous faire mériter. Parce que c'est vrai qu'être fidèle à Dieu, quand c'est dur de prier, d'être aux raisons, ça vaut plus. Ça a plus de poids d'amour que de faire aux raisons quand c'est fastoche, qu'on a la quiétude, que c'est une partie de plaisir. Vous voyez ? Donc comme le Seigneur veut faire mériter l'âme, il choisit de la mettre dans la sécheresse contemplative. Parce que là, elle va pouvoir affirmer la crédibilité et la virilité de son amour. Plus nos oraisons sont dures, plus c'est bon. Plus elles sont faciles, plus il y a de danger, de menaces, de se rechercher soi-même. Et c'est pour ça que des fois, il vaut mieux la sécheresse que la fruition. Parce que là, au moins, on est sûr de ne pas se rechercher. Aller à Jésus au calvaire, hein, c'est beaucoup plus difficile que d'aller à Jésus à Cana. Parce que à Jésus à Cana, c'est cool. Il y a du vin à gogo. Mais aller à Jésus au calvaire, là, par contre, c'est difficile. Et le Seigneur compte ses amis sur les doigts de la main. Quels sont ceux qui sont capables de durer dans la prière quand c'est dur et difficile, hein ? Seuls les amis. Marie-Madeleine, Marie, Jean, au pied de la croix. Tous les autres, ils ont foutu le camp. Donc si vous, ça fait 20 ans que vous êtes dans la sécheresse et que vous êtes toujours fidèle, ben, ça montre la force de votre amour et le Seigneur vous fait mériter là-dedans. Et c'est pour ça qu'il vous est profitable d'être dans la sécheresse contemplative. Et troisième raison, par ce chemin, le Seigneur veut nous faire croître dans l'humilité. Je vous donne un rapide petit témoignage. Quand j'étais élève de terminale et que je commençais mes premières expériences d'oraison avec le père Louis Sancalé au local de l'aumônerie de Marseille-Vert, quand on sortait de ces temps d'oraison, mes camarades, Agnès, Hervé, ils me disaient « Ah, tu sens pas cette oraison, cette paix, ce repos, cette quiétude de Jésus ?» Moi, je ne ressentais rien du tout. J'étais dans la sécheresse complète et totale, et donc j'en pouvais plus. Je me demandais même si j'allais continuer à prier, et je me disais que j'étais le dernier des derniers. Et je me disais que eux, c'était des saints. Parce qu'ils avaient la présence de Jésus en eux, et moi, j'arrivais à rien, parce que j'étais un grand pécheur, et donc, en fait, tout ça, finalement, ces sécheresses, ça m'humiliait profondément. Oui, mais qui c'est qui carme aujourd'hui ? C'est moi. Alors, conclusion en deux phrases, demandons la contemplation, demandons la grâce contemplative, demandons les dons du Saint-Esprit, la sainteté pour aimer et connaître Dieu comme il se connaît et s'aime lui-même dans le mystère trinitaire. Et surtout, acceptons dans l'abandon la forme de contemplation que Dieu a prévue pour nous, que ce soit la fruition ou que ce soit la sécheresse. Amen.